7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 mai, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, remettre un tigre dans le moteur de la filière automobile. Emmanuel Macron présente aujourd'hui un plan de relance pour un secteur en panne. Les ventes se sont effondrées depuis le début de l'épidémie. En détail, tout cela, Agnès, après les autres titres.
Grosse pression sur l'école primaire, les parents sont de plus en plus nombreux à vouloir remettre leurs enfants en classe. Le casse-tête du déconfinement en Allemagne où chaque Länder a ses propres règles, l'exemple des bars et des restaurants. Moins d'un Français sur quatre fume tous les jours, les bons chiffres de la lutte contre le tabagisme. Enfin, on connaissait le sous-préfet au champ, voici le maire dans son église.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Elle fait entendre sa voix singulière depuis quelques semaines pour défendre les vertus du télétravail, réclamer une nouvelle hiérarchie des métiers et dénoncer l'imposture et la vacuité des livres de développement personnel. Parole ce matin à 7h50 à la philosophe Julia de Funès.
Et à 8h20, Léa, nous recevons tous les deux dans le grand entretien de la matinale le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
La filière automobile en France, c'est 400 000 emplois directs, 500 000 emplois indirects et quelques fleurons de l'industrie hexagonale comme Renault ou Peugeot. Un secteur frappé de plein fouet par la crise, les ventes de voitures neuves se sont évitablement effondrées, moins 70% en mars, moins 90% en avril. Le secteur était déjà en difficulté malgré de multiples mesures de soutien, prime à la casse, prime à la reconversion. Ce nouveau plan de relance qu'Emmanuel Macron doit dévoiler en fin de matinée sera d'ailleurs une nouvelle fois, Raphaël Ebenstein, axé sur les bonus.
Un bonus écologique porté à 8 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique, contre 6 000 actuellement, mais aussi l'extension du système des primes à la conversion, autrement dit les primes à la casse, pour l'achat de modèles essence ou diesel récents, neufs ou d'occasion. C'est cette double annonce que devrait faire aujourd'hui Emmanuel Macron. Une manière de soutenir les constructeurs, notamment Renault et PSA, alors que les stocks sont importants dans les concessions, surtout chez Renault. Le montant de la prime pourrait atteindre 2000 euros, le double même pour les ménages les plus modestes. Et surtout, elle serait versée en cas de reprise d'un modèle diesel immatriculé jusqu'en 2011, alors qu'elle ne bénéficie aujourd'hui qu'aux possesseurs des voitures les plus anciennes, datant d'avant 2006, voire d'avant 2001. Cela aurait pour conséquence de rajeunir le parc automobile français, mais sans doute pas de le verdir autant que réclamé par les ONG de défense de l'environnement.
Le chef de l'État va donc s'entretenir ce matin avec le PDG de Renault à l'Élysée, puis avec l'ensemble des acteurs de la filière, constructeurs, équipementiers, partenaires sociaux, avant les annonces. Et dans l'après-midi, le chef de l'État se rendra à Étaples, près du Touquet, pour visiter l'usine Valeo, spécialisée dans la fabrication d'alternateurs, l'un des plus gros sous-traitants de l'industrie automobile, qui souffre évidemment aussi et qui attend des annonces fortes. Maxime Debs.
Il fabrique à côté rétroviseurs, poignées de portières pour les gros, PSA et Renault, et eux aussi vivent au ralenti, déplore Denis Bréant de la CGT Métallurgie.
On a beaucoup de sites où il n'y a même pas 30% des effectifs de production qu'on repris, puisque aujourd'hui, l'équipementier répond aux besoins du donneur d'ordre. Et s'il diminue ses besoins, l'impact est direct sur l'activité des équipementiers.
Première victime industrielle, déjà dans la filière, il y a quelques semaines, Novares, 12 000 salariés à travers le monde, 1350 en France, lesquels fabriquent des tableaux de bord et autres pare-chocs. Le groupe est en redressement judiciaire, il ne sera sans doute pas le seul. Pour Claude Cham, président de la FIEV, fédération qui défend les intérêts des équipementiers.
Mon inquiétude se porte après l'été. Lorsque les mesures de soutien, ce que j'appelle la mise sous perfusion de l'économie à l'heure actuelle, commencera à décliner, c'est là que je pense que nous allons avoir des défauts.
Il y a quelques jours encore, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait posé des conditions aux constructeurs à ce plan de soutien, comme le respect de leurs sous-traitants dans la période. C'est bien beau de le dire pour les syndicats.
Aujourd'hui, bien parler à la presse, oui, mais comment ça se traduit
Comment, avec quels moyens, c'est désormais au président de dévoiler la feuille de route.
Reportage de Maxime Debs. Relancer l'apprentissage, mais aussi lutter contre le décrochage scolaire en lycée pro et faciliter l'entrée sur le marché du travail des jeunes. Ce sont les trois axes d'un plan global pour les jeunes que le gouvernement entend présenter avant l'été. C'est ce qu'annonce ce matin dans Les Échos le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Une partie des lycées professionnels devrait d'ailleurs rouvrir leurs portes durant l'été pour accueillir notamment les 15% d'élèves qui ont décroché durant le confinement. Au niveau du primaire, les directrices et les directeurs doivent, eux, faire face à une demande de plus en plus forte des parents. Mais comment accueillir plus d'enfants sans un assouplissement des règles sanitaires? Un véritable casse-tête pour les chefs d'établissement. Sonia Princé.
Le temps d'une conversation au téléphone, Roselyne Barré, directrice d'une école maternelle dans le Var, a déjà reçu 4 mails de parents qui souhaitent que leur enfant revienne en classe.
Je suis encore dans les comptes, là, parce que les listes changent de minute en minute. Et il y a énormément de demandes, là, depuis ces quelques jours fériés et ce long week-end, parce que la plupart des professions sont appelées à reprendre le travail ces jours-ci. Et tant qu'on est limité à 10 enfants fois le nombre d'enseignants, je ne pourrais malheureusement pas satisfaire les demandes de 4 jours de scolarisation par semaine.
Cette directrice ne pourra de toute façon accueillir les élèves que 2 jours par semaine maximum, à moins d'assouplir le protocole sanitaire. C'est une solution, selon Agnès Lebrun, vice-présidente de l'Association des maires de France.
Évidemment, le desserrement du nombre d'élèves par classe serait déterminant. Si on peut recevoir davantage d'élèves dans un groupe classe, tout change. L'école peut reprendre un rythme presque naturel. Et c'est vrai qu'on peut quand même imaginer un certain nombre de mesures barrières avec plus de 15 élèves. Mais il faut évidemment être prudent. On voit ici ou là des foyers d'infection renaître. Donc naturellement, l'évaluation sanitaire est tout à fait primordiale.
Les syndicats d'enseignants aussi réclament un avis scientifique. Pas question pour eux d'être à l'origine d'une deuxième vague de l'épidémie.
Alors faut-il assouplir le protocole sanitaire pour les enfants? C'est à lire aussi sur franceinter.fr. On en vient au bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19 avec 90 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Mais le chiffre ne concerne que le nombre de morts dans les hôpitaux. Le bilan global est de 28 457 décès. Le nombre de malades en réanimation continue de baisser. 1609 hier soir. Ils étaient plus de 5000 au plus fort de la crise.
Il est 7h07, Agnès. L'appel franco-allemand à une réouverture des frontières en Europe.
Le président de l'Assemblée nationale et son homologue outre-Rhin signent ce matin une déclaration commune, s'inquiétant des lourdes conséquences de la fermeture de la frontière franco-allemande et demandant un peu de cohérence au sein de l'espace Schengen. De la cohérence, c'est aussi ce que demandent les propriétaires de bistrots à Berlin. Si les restaurants ont pu rouvrir le 15 mai, les bars restent fermés. Reportage de notre correspondant Ludovic Piétenu dans un quartier de l'ouest de Berlin, à Spandau.
On pourrait parler d'un pub, les Allemands appellent ça un Kneipe. Cela veut dire un lieu où l'on est entassé, une chose qui ne va pas bien avec le coronavirus. Il y en a près de 500 à Berlin, ce sont des bistrots de quartier, fréquentés par des habitués comme Michel, 62 ans.
Ça fait partie de notre culture, l'Allemagne c'est la bonne bière, et le contact entre les gens. Ce que je veux dire, c'est que ce contact social nous manque. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot de dépression pour certains, mais nous sommes tous très tristes.
Catherine qui gère ce bar, le Klinkenstuben, parle d'injustice.
Ungerecht.
Il vous suffit de servir un peu à manger, sagace-t-elle, et vous avez le droit de rouvrir.
Beaucoup pensent que les gens boivent trop et quand ils ont trop bu, qu'ils se rapprochent les uns des autres, ce qui n'est pas le cas. Je pense que par les temps qui courent, on peut tous faire attention et moi, en tant que propriétaire, je suis vigilante et j'en ai sur tout.
C'est une difficulté que connaît l'Allemagne dans cette phase de déconfinement. Par rapport à certains de ses voisins, le pays a commencé tôt, mais il y va pas à pas et le mécontentement grandit. Certaines situations sont comme ici jugées injustes, d'autant plus dans un pays où les règles ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. À seulement 5 km du bar de Catherine, dans la région du Brandebourg, les Kneipe sont ouverts. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Quand les bars et les restaurants vont-ils pouvoir rouvrir? C'est aussi la question que se posent les commerçants de l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor, une île qui vit à 80% du tourisme. Si aujourd'hui la vie est douce sur l'île pour les habitants et les confinés, les professionnels redoutent une catastrophe économique. C'est le long format de ce 7h et il est signé Éric Audra et Thibault Lefebvre.
À peine une trentaine de voyageurs à bord de la Bréatine, alors qu'ils sont habituellement 10 fois plus.
C'est compliqué.
Un seul bateau sur les 5 de la flotte des vedettes de Bréa, dirigée par Annelise Corlouer, relie actuellement le continent à l'île.
Regardez, il y a très peu de gens en fait. C'est un hiver sans fin. On a ce sentiment régulier pendant l'hiver d'être seul au monde. On est toujours seul au bout du monde.
Et l'entrée du bout du monde s'appelle le Port Clos, un embarcadère avec quelques bateaux au mouillage et une seule boutique ouverte. Le magasin de souvenirs Bleu dans l'île est, selon son patron Stéphane Morleva, la vigie de Bréa pour tous les autres commerçants.
Je regarde le nombre de touristes qui arrivent et je peux les prévenir. Attention, là, il y a beaucoup de monde ou pas et ils peuvent se préparer en conséquence. Ce qu'on attend, c'est surtout une ouverture peut-être plus grande que les 100 km. On ne peut pas accueillir des gens qui viendraient de Brest, qui viendraient de Nantes. C'est ce qui pourra certainement relancer l'économie de l'île, en espérant qu'à la fin de l'été, il n'y aura pas trop de casse pour les commerçants. Quoi.
Sur les 48 CDI employés sur l'île, 42 sont toujours au chômage partiel. Bréhat n'a donc jamais été aussi peu habité à cette période. Il reste bien sûr les locaux, mais aussi une majorité de propriétaires de résidences secondaires.
C'est comme rêver comme endroit.
Nathalie Berthier vit dans une longère qui surplombe le port. Elle est arrivée de région parisienne pour le confinement. Elle n'est toujours pas repartie.
L'île est très calme. Et voir le port extrêmement calme, sans passage de vedettes, sans entendre les haut-parleurs, ce qui est nécessaire, mais effectivement qui est une nuisance sonore, c'est fabuleux.
Il y a en ce moment 1 000 000 d'habitants à Bréhat, dont environ 2/3 venus du continent.
Reportage de Thibault Lefebvre et Eric Audra. Il y a de moins en moins de fumeurs et de fumeuses en France. Santé publique France publie ce matin les résultats de son baromètre annuel. En 5 ans, le nombre de consommateurs réguliers de cigarettes est passé de 30 à 24%. Et la baisse est particulièrement sensible cette année chez les femmes, Hélène Chevalier.
Entre 2018 et 2019, le nombre de femmes fumant quotidiennement est passé de 22,9 à 20,7%. Une baisse de plus de 2 points particulièrement significative, alors que le nombre de fumeurs quotidiens a lui stagné chez les hommes à un peu plus de 27%. Si les adolescentes résistent mieux à la tentation de la première cigarette, les campagnes de prévention auraient aussi plus d'impact sur les femmes, constate Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité addiction à Santé publique France.
Par exemple, lorsqu'on évalue le dispositif Moi sans tabac, qui est donc la grande campagne annuelle de prévention du tabagisme et d'incitation à l'arrêt du tabac, donc on observe que la notoriété de cette opération, sa reconnaissance, sa mémorisation, elle est plus importante parmi les femmes que parmi les hommes.
Autre enseignement de ce baromètre, les inégalités sociales liées au tabagisme restent encore très marquées.
En France, les plus favorisés fument moins, alors que les moins favorisés fument davantage. Par exemple, on a encore 12 points d'écart entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus, avec 18% de tabagisme chez ceux qui ont les plus hauts revenus, contre 30% de tabagisme chez ceux qui ont les plus bas revenus.
Si en 5 ans, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé de 16%, le bulletin de Santé publique France s'inquiète de l'impact qu'aura l'épidémie et notamment le stress qu'elle génère sur la consommation de tabac.
Il va finalement rester. L'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, sera encore à Marseille la saison prochaine. Le club l'a annoncé hier soir, signant la fin d'un psychodrame de plusieurs semaines.
Et à 7h12, c'est un drôle d'endroit pour un conseil municipal.
Les élus de Gradignan, en Gironde, ont choisi le parc de l'ancien château viticole pour installer la nouvelle équipe à l'ombre d'un chêne, mais gel hydroalcoolique de rigueur. Les élus d'Emieville dans le Calvados ont choisi l'église pour déconfiner la vie politique locale. C'est un reportage de Nolwenn Lejeune.
La mairie est devenue trop petite, la salle des fêtes est réquisitionnée pour l'école. Le maire Stéphane Amilcar a donc retourné le problème dans tous les sens et finalement la solution lui est apparue.
Un enterrement tous les 4 mois ici. Deux messes par an, je me suis dit mais c'est l'endroit idéal qui sert pas. C'est un bâtiment communal qu'on entretient. L'électricité, l'eau, les impôts fonciers. L'année dernière c'était l'aménagement pour les personnes handicapées, un billet de 10 000 euros.
Alors oui, c'est monsieur le maire qui paye les factures, mais dans l'église il reste à sa place.
Je suis pas là pour faire la messe, je le souligne. Donc je vais présider sur une petite table devant les élus.
Des élus qui, dans ce vaste édifice de 300 mètres carrés, ont de quoi garder leur distance.
Un banc sur deux, à raison de 2 personnes par banc.
Le Covid nous oblige à nous adapter, poursuit-il, et cette organisation pourrait bien perdurer.
C'est clair dans ma tête, hein, si la distanciation nous impose encore les règles qu'on a aujourd'hui, bah oui, on continuera. J'ai une femme de ménage qui vient quand même là toutes les semaines, et il se passe rien des fois pendant des dizaines de semaines. Donc la République... C'est atypique et ça me plaît bien.
En respectant évidemment les lieux, pas question donc de mettre du gel hydroalcoolique dans le bénitier.
Ça m'a traversé l'esprit. Mais non, je suis un peu blagueur, mais là non.
Reportage de Nolwenn Lejeune de France Bleu Normandie. Effectivement, la première séance du conseil municipal aura lieu vendredi dans l'église.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.